Studio Tamani, voici les informations en français.
Jeudi 28 mars 2024, il est exactement 17h dans ce studio, même heure à Ségou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Ménaka, les convois de vivres tant attendus sont arrivés hier à destination. L'arrivée de ces camions dans la ville est un ouf de soulagement pour les populations. Les centres de santé communautaire de Massina dans la région de Ségou sont en manque d'ambulances pour les évacuations d'urgence. La société civile et les responsables sanitaires lancent un cri de cœur aux plus hautes autorités. Malgré la sensibilisation, la lutte contre la corruption demeure un grand défi. Dans votre dossier de la semaine, nous faisons zoom sur la forme la plus répandue, à savoir la petite corruption. À la présentation de ce journal, Hamsetou Touré, Mamadou Ouattara assure la mise en onde. Je viens de l'annoncer dans les titres. Après 48 heures de voyage entre Ansongo et Ménaka, le convoi de camions escorté par les FAMA est rentré à Ménaka hier mercredi. Les autorités régionales et les responsables de la société civile sont allés à la rencontre des véhicules au camp des FAMA à 2 km de la ville. Après les formalités d'usage et la prise de parole du représentant du gouverneur, les camions ont pris la direction de la ville de Ménaka dans un nuage de poussière. Mohamed Ag Issa Feitan, notre correspondant, a suivi ce convoi qui suscite déjà de l'espoir dans la ville de Ménaka.
48 véhicules au total sont arrivés au camp FAMA où attendaient les responsables civils et militaires. La quasi-totalité transporte des denrées alimentaires. Malgré quelques difficultés, le voyage s'est déroulé à hauteur de souhait. Ali Mazou est un des responsables des transporteurs.
On est arrivé à Ménaka en bonne santé et on demande à FAMA de nous encourager encore de faire le travail. Nous, les transporteurs, on est là pour ça. C'est vrai, on a eu des problèmes en cours de route. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes qui viennent.
Zeni Abdou est du voyage. Ses premiers mots sont adressés aux forces armées et de sécurité du Mali. Selon lui, c'est un véritable sacrifice que les femmes ont consenti pour escorter ces nombreux véhicules.
50 camions, ce n'est pas facile d'escorter ça de Gao jusqu'à Ménaka. Donc ils ont fait leur mieux, ils se sont sacrifiés pour la population.
Quelques minutes après l'arrivée des camions dans la ville, la route nationale servant de gare routière qui traverse Ménaka a été envahie par les populations pressées de s'approvisionner. Rappelons que le mardi, la Chambre de commerce a communiqué les nouveaux prix des denrées alimentaires applicables dès hier mercredi. Mohamed Ag Issa Feitan, Ménaka, Studio Tamani.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Autre titre de ce journal, pas d'ambulance pour les évacuations d'urgence dans les 12 centres de santé communautaire de Massina, dans la région de Ségou. Le service d'évacuation est arrêté depuis le 26 novembre dernier. Il fait suite à l'enlèvement du transport sanitaire par les hommes armés. Aujourd'hui, les femmes en difficulté d'accouchement et d'autres urgences médicales sont difficilement transférées vers le centre de référence du cercle. Le point avec notre correspondant à Massina, Sékou Abdoulkader Traoré.
Cette problématique concerne les 12 CESCOM sur les 20 qui comptent le cercle. En plus, un blocus est imposé par les hommes armés sur la principale route qui mène au centre de référence, un calvaire pour la population.
Tous nos forêts sont occupées par les hommes armés. On est obligé d'emmener nos malades à Ségou.
La prise de l'ambulance par des hommes armés a entraîné plusieurs cas de mort.
Avec les détours, pour emmener une femme au CCRF, il faut débourser 50 000 francs CFA.
Les responsables du CCRF expriment leur incapacité à trouver une solution à cette situation d'urgence dans Sénis Nayoko, le médecin-chef de Massina.
La référence d'évacuation est carrément arrêtée. Et aussi aujourd'hui, nous savons que même si on met un dispositif pour aller là-bas, c'est pratiquement impossible. L'accès est très difficile à cause de l'évolution des groupes d'armes.
La société civile alerte les autorités sur la question. Moulay Traoré, un des responsables de la société civile de Massina.
Nous interpellons jusqu'à preuve du contraire le gouvernement afin de prendre vraiment des mesures idoines pour lever ce blocus de façon quand même que à ce que personne puisse respirer en ce mois béni de Ramadan.
Avant ces événements, le district sanitaire de Massina avait effectué en 2023 600 sorties d'ambulance gratuitement pour la prise en charge des femmes enceintes. De Massina, Sékou Abdoulkader Traoré pour Studio Tamani.
17h passées de 5 minutes de Massina, revenant à présent à Bamako, où les déplacés de 20 sites ont reçu des dons en ce mois de Ramadan. Plus de 200 ménages ont bénéficié de ces dons, composés de coupons alimentaires et des transferts monétaires. Une décision salutaire témoigne les déplacés. Toutefois, ils déplorent le manque d'emploi des jeunes qui sont sur le site. Ils souhaitent plus d'engagement des autorités à ce niveau. Lala Aïcha Wallet, Infa.
Tchemoro Traoré est le chargé de coordination de la gestion des sites des déplacés de Bamako. Selon lui, ces gestes visent à soutenir les déplacés afin qu'ils puissent passer le mois de Ramadan sans difficulté.
Certains partenaires, ils avaient mis des coupons alimentaires d'une valeur de 80 000 francs par personne. Il y a un autre partenaire qui a mis des coupons alimentaires à hauteur de 40 000 francs par ménage. L'État aussi a donné.
C'est un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Ils apprécient les gestes à sa juste valeur.
On a eu l'aide du ministre et des associations féminines.
On a eu du riz, de l'huile, du mil, du sucre, des dattes et du lait.
Cependant, ces déplacés se lamentent du manque d'emploi des jeunes déplacés. Ils lancent un cri de cœur aux autorités pour faire face à cette situation.
Beaucoup des jeunes déplacés sont sans emploi. C'est pourquoi on interpelle les autorités. On souhaite avoir un endroit pour que ces jeunes puissent pratiquer le maraîchage.
Toutefois, le développement social invite les autorités à plus d'efforts pour le retour de la paix définitive, notons qu'à l'intérieur du pays, certains déplacés attendent toujours des dons.
Autre actualité du jour, des gendarmes et policiers outillés aux techniques de remplissage des fiches de bulletins d'analyse des accidents de la circulation BAC à Sikasso. C'était à la faveur du forum régional sur la sécurité routière qui a débuté hier dans la ville. Selon les organisateurs, cette activité vise à réduire le nombre de morts sur les routes. Le forum organisé par l'ANASER et financé par le ministère des Transports prend fin ce samedi 30 mars 2024.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
À présent, le dossier de la semaine. La corruption est une réalité dans plusieurs secteurs privés et publics. Des actions de sensibilisation sont menées par des associations et les autorités pour mettre fin à la pratique. Pour autant, la forme la plus répandue, qui est la petite corruption, passe souvent inaperçue. Qu'est-ce que la petite corruption? Comment est-elle vue par les populations et que prévoit la loi? Des éléments de réponse dans ce dossier de la semaine réalisé et présenté par Adama Amadou Haïdara.
La petite corruption peut se présenter sous deux formes. On en sait plus avec Ibrahim Ben Mamata, juriste.
Petite corruption active, ça c'est dans le cas où c'est l'employeur ou bien le fonctionnaire qui sollicite de la personne qui vient dans son service quelque chose pour faire le travail pour lequel il est payé. On parle de corruption passive dans le cas où l'usager du service public ou privé propose quelque chose à l'employé ou au fonctionnaire pour un service.
Au Mali, on le dit couramment, avoir des bras longs est un atout pour parler ainsi des relations. Et la population bien consciente de son acte s'y prête quand même.
Effectivement, dans les services, on se rend entre nous amis, parents et frères.
Une fois, on m'a arrêté pour une vignette, ça m'a choqué, j'ai payé 1000 francs. Mais après, j'ai réfléchi, je me dis que vraiment, c'est pas normal.
J'ai même une fois payé 5000 francs pour avoir ma carte d'identité. C'est de la corruption et j'en suis consciente aussi.
Pourtant, cette petite corruption est opprimée par le code pénal malien à travers les articles 120 et 123, comme le souligne ici Ibrahim Ben Mamata.
Et la peine de la corruption varie selon les registres. S'agissant des fonctionnaires, elle peut être de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Du secteur privé, c'est de 2 à 5 ans.
Sur le plan économique, cette pratique n'est pas sans conséquences. Selon l'économiste Abdoulkarim Diamoutene, la petite corruption, de par son élargissement, a plus d'impact négatif.
Le niveau de pauvreté au Mali, qui théoriquement est entre 40 et 50 de la population qui est censée être pauvre. Et donc cette corruption-là, elle ne fait qu'aggraver la pauvreté de la population. Les gens ont tendance d'ignorer et puis surtout quand on voit un peu les rapports, et c'est cette petite corruption-là qui concerne un peu la majorité de la population malienne parce qu'elle est à tous les niveaux.
L'association de lutte contre la corruption et la délinquance financière condamne la corruption sur toutes ses formes. Son président Moussa Touré appelle à un éveil de conscience.
Ce sont
Franchement, des pratiques que nous dénonçons tous les jours, c'est de demander aux citoyens de refuser cette corruption ou de la dénoncer. Tant qu'on ne va pas la dénoncer, il va continuer à perdurer.
Plusieurs mesures ont été prises pour mettre fin à cette pratique qui continue malgré tout.
Page noire de ce journal, l'ex-secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Kinan Ag Gadeda, est décédé ce mercredi soir à l'hôpital du Mali. Le défunt a occupé plusieurs postes au sein de l'éducation, dont le poste de directeur de centre d'animation pédagogique, celui d'académie d'enseignement. Il a aussi été directeur national de l'enseignement fondamental, ensuite secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, puis son âme reposée en paix. Pour réécouter ce journal, appelez gratuitement sur Viamo 37 321. Vous pouvez retrouver également toutes nos productions sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store. Avant de refermer ce journal, je rappelle que le grand dialogue de ce soir est une rediffusion. Le thème est « Quel rôle de la société civile dans la construction du Mali ?» Une présentation de Imran Akilou Meïga. Merci de votre constante fidélité. Restez à l'écoute tout de suite, le magazine. Les premiers pas sont déterminants dans la physionomie de l'homme. Entre joie et inquiétude, les mamans qui guident ces premiers pas ont chacune des astuces pour que cette étape se passe dans de bonnes conditions. Certaines n'hésitent pas à se tourner vers des méthodes traditionnelles. Comprendre les premiers pas d'un bébé dans ce magazine Tous les enfants du Mali qui est une rediffusion, une réalisation de l'Allée Tangara avec le concours de nos correspondants.
Les premiers pas de l'enfant est un moment crucial pour beaucoup de mamans. Certaines nous affirment qu'elles laissent la nature faire les choses, ce qui veut dire qu'elles ne font pas recours aux médicaments traditionnels ou des talismans. Écoutons le témoignage de ces mamans de Kadjolo.
Je ne donne pas de médicaments à mes enfants pour qu'ils marchent. Ils marchent tout seuls à un an.
Non, je ne donne rien à mes enfants. S'ils tombent malades quand même, on leur donne des décoctions.
À l'âge d'un an, mes enfants commencent à marcher.
Certaines mamans s'affolent parce que leur tout petit n'a pas fait ses premiers pas à un âge qu'elles considèrent comme normal. Ces mamans de Ségou et de Kita disent avoir essayé des méthodes traditionnelles pour voir rapidement les premiers pas de leur bébé.
Quand l'enfant tarde à marcher, certaines attachent des talismans à la cheville, aussi des colliers sur leur cou.
Des mamans cherchent des médicaments avec les vieilles. Souvent, elles achètent des poussettes.
Le retard de certains enfants est dû à la qualité du lait de la maman.
Mon premier enfant tardait à marcher. Je lui ai donné des médicaments traditionnels tout en pensant qu'il était handicapé.
J'ai tout fait pour que mon enfant marche tôt. J'ai 7 enfants et c'était la même situation.
Nelly Mansi est traditérapeute à Badjangara. Elle affirme qu'une fois qu'on attache un de ses talismans à un bébé, il a une semaine ou un mois pour marcher.
Quand elles arrivent chez moi, je leur donne des talismans à attacher à la taille de l'enfant et un médicament à appliquer sur ses pieds. Le processus pour certains enfants prend juste une semaine, 15 jours, voire un mois pour d'autres.
Sur le plan médical, des médecins affirment qu'il faut un an pour qu'un enfant marche. Selon professeur Boubacar Togo, chef de département pédiatre à l'hôpital Gabriel Touré, en Afrique, plusieurs enfants marchent avant leur 12e mois.
Il y a des enfants qui marchent, surtout en Afrique, avant un an. Certains marchent à 9 mois, à 10 mois. Mais en règle générale, l'enfant marche de façon autonome à partir de 1 an. Un enfant qui ne marche pas à 18 mois, il faut s'inquiéter. Ça peut être un enfant qui a un retard psychomoteur, qui a un retard mental. Vous savez que la marche, elle est liée au développement cérébral.
Docteur Yaya Katilé, pédiatre au CCRF de Diréy, nous explique qu'il faut s'inquiéter quand l'enfant ne marche pas au-delà de 16 mois. Pour cela, il y a tout un processus médical à leur niveau.
Donc chez nous, si l'enfant ne marche pas à une année, on observe l'enfant jusqu'à 16 mois. Donc si l'enfant ne marche pas toujours à 16 mois, nous on a un point focal orthopédiste et kinésithérapie chez qui on adresse l'enfant. Donc lui, il va essayer de rééduquer l'enfant. Donc si après tout ça, l'enfant ne marche pas, Il y a un centre d'orthopédie à Tombouctou. On réfère l'enfant là-bas pour une meilleure prise en charge.
Des pédiatres conseillent aux mamans de ne pas être pressées que l'enfant marche, ni de se laisser angoisser par un éventuel retard par rapport à d'autres enfants de son âge. Selon eux, l'être humain est génétiquement programmé pour marcher. Ils préviennent qu'en l'absence de maladies ou de graves problèmes locomoteurs, tous les enfants apprennent à marcher tôt ou tard.